14 avril 2013, 20 h. Frédéric Pierucci, cadre chez Alstom, en poste à Singapour, atterrit à New York. Il est cueilli dès sa sortie d'avion par deux agents fédéraux, menotté et emmené au siège du FBI à Manhattan. Le procureur fédéral du Connecticut, David Novick, souhaite l'entendre sur des faits de corruption ouverts contre Alstom, notamment dans le cadre de l'attribution du marché de la centrale électrique de Tarahan à Sumatra en Indonésie en 2005. En 2003, Alstom est à deux doigts de mettre la clé sous la porte. Il lui faut remporter ce contrat, bien que modeste, pour commencer à retrouver son lustre d'antan. À cette époque, les pots de vin sont pratique courante dans cette partie du globe. Toutes les entreprises du monde y ont recours. Alstom fait donc appel à deux intermédiaires pour l'aider à remporter ce marché. Le procureur Novick va directement au but. Frédéric Pierucci est accusé d'avoir participé à des actes de corruption envers un parlementaire indonésien. Comme cela représente un acte de corruption d'un agent public étranger, il tombe sous le coup du Foreign Corrupt Practice Act, FCPA, loi fédérale américaine de 1977 visant à lutter contre la corruption d'agents publics à l'étranger. Alstom a été informé de l'enquête ouverte par le Department of Justice, DOJ, des USA au sujet de ces faits de corruption. Mais malgré ses promesses depuis 2010, Alstom a toujours refusé de coopérer avec le procureur américain. Sans laisser le temps à Frédéric Pierucci de réagir, le procureur lui enjoint de ne pas appeler son entreprise, de renoncer à son avocat et de lui servir de taupe afin de le renseigner sur Alstom, sa direction et son PDG, Patrick Kron. Frédéric Pierucci ne peut y croire. Il est persuadé que son entreprise va le sortir de là, car il a la confiance du PDG. Il décline donc l'offre de Novick et souhaite pouvoir appeler son entreprise et son consulat ainsi qu'un avocat. Le procureur rend son téléphone portable à Frédéric Pierucci, qui passe deux appels. L'un avec le patron de la division chaudière aux USA, Tim Curran, qui s'empresse d'appeler le siège. L'autre avec Kate Carr, directeur juridique du groupe à Paris, un fidèle parmi les fidèles de Kron. Carr est stupéfait et dit ne pas comprendre, car ils sont en train de finaliser l'accord avec le DOJ. Et lui-même est attendu dans quelques heures à Washington pour cela. Avant de raccrocher, il lui assure qu'ils vont le sortir de là. Les avocats d'Alstom mandatent le cabinet Day Pitney pour assurer la défense de Frédéric Pierucci. Ce dernier va donc passer sa première nuit en prison, dans l'attente d'un jugement pour statuer sur sa demande de liberté conditionnelle. Le lendemain, Frédéric Pierucci rencontre une jeune avocate, Lise Latif, qui non seulement ne connaît rien aux affaires d'Alstom, mais ne maîtrise pas le FCPA. Elle lui annonce aussi plusieurs choses. 1. Qu'il est poursuivi pour corruption et blanchiment d'argent. 2. Qu'il a été mis en accusation par un grand jury. 3. Que sa mise en examen a été tenue secrète jusqu'à son arrestation. Et 4. Qu'un autre cadre d'Alstom, David Rothschild, a aussi été arrêté et a accepté de plaider coupable. Frédéric Pierucci est abasourdi. D'autant que l'audience devant le juge se passe mal pour lui. Le procureur Novick s'oppose fermement à sa libération, car il affirme, avec une mauvaise foi assumée, d'une part, alors qu'un mandat d'arrêt a été prononcé contre Pierucci, il ne s'est pas rendu aux autorités américaines, d'autre part, la France n'extrade pas ses ressortissants. Effaré, Frédéric Pierucci plaide non coupable et demande à son avocate de contacter Kate Carr de toute urgence. La juge, eu égard à la complexité du dossier, donne 48 heures à la défense pour préparer un nouveau dossier. Frédéric Pierucci retourne donc en prison et, contre toute logique, au centre de détention de haute sécurité de Wayat. Et là, sa description de l'univers carcéral américain, tout au long de l'ouvrage d'ailleurs, fait froid dans le dos. Un col blanc avec les criminels de sang les plus endurcis. Où est l'erreur? Pression? Intimidation? Menace? Petit flashback. En 1999, Alstom s'est allié avec ABB, un concurrent suédo-suisse, pour fusionner leurs activités d'équipement de centrales électriques. Pour Alstom, c'était mettre la main sur le savoir-faire d'ABB dans les turbines à gaz. Mais il y avait un vice caché. Ces turbines avaient un défaut de conception, engendrant de nombreux problèmes techniques auprès des clients, incidents pour lesquels Alstom a dû verser plus de 2 milliards d'euros, ce qui a accru sa dette et son déficit à un niveau record de 5,3 milliards d'euros. Alstom a perdu la confiance des investisseurs. Cette opération industrielle a été une véritable catastrophe. Le groupe était à deux doigts de se déclarer en faillite. Pierre Bilger, le PDG, est remercié et remplacé par Patrick Cron, ex-mine, issu de cette petite aristocratie, voire oligarchie républicaine qui, depuis deux siècles, tient les rênes des plus grandes entreprises et de l'économie française. Cron va réussir à sauver Alstom en allant plaider en personne, à Paris et à Bruxelles, le renflouement par l'État français de cette entreprise symbolique, au prix de l'éviction de nombreux cadres de l'entreprise et du recentrage des activités du groupe. Il bénéficie d'un soutien de poids, celui de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'économie. L'État français rachète ainsi un peu plus de 20% du capital d'Alstom, ce qui correspond dans les faits à une nationalisation partielle. Parallèlement, et antérieurement aux années 2000, la corruption était interdite dans l'Hexagone, mais était plus que tolérée par nos gouvernants dès lors qu'elle ne concernait que des marchés à l'étranger. Bercy se faisait communiquer chaque année par les dirigeants des entreprises françaises les sommes engagées en pot de vin pour les défalquer de leur impôt sur les sociétés. Mais en septembre 2000, la France signe la convention de l'OCDE contre la corruption internationale. Les règles du jeu changent, du moins en apparence. Alstom décide de renforcer ses process de conformité aux lois, règlements et normes et édicte dans les années 2002-2003 des règles très précises concernant d'une part les contrats et d'autre part l'approbation des intermédiaires locaux, ceux qui permettent d'emporter le marché et se voient gratifiés pour leur action d'intercession. En fait, la corruption n'a pas été stoppée, elle a été simplement dissimulée. Et Alstom n'a pas été la seule entreprise internationale à le faire. À leur seconde rencontre, Lise Latif est accompagnée de Stan Twardy, avocat et ancien attorney général du Connecticut, ce qui équivaut à un poste de procureur général en France, qui lui annonce qu'Alstom prend en compte ses frais de défense. Toutefois, si Frédéric est condamné, l'entreprise pourra lui demander de rembourser lesdites sommes. Il estime que sa caution personnelle pourrait être de 400 000 dollars. Alstom, de son côté, accepte d'engager 1,5 million de dollars et de louer un appartement pour Frédéric Pierucci aux USA, ainsi que les deux gardes chargés de le surveiller. Stan Twardy ne peut contacter directement la direction d'Alstom et est obligé de passer par un autre cabinet d'avocats, celui qui défend Alstom lui-même dans cette affaire. Frédéric Pierucci comprend qu'il se retrouve seul. Par ailleurs, Stan Twardy lui annonce que bien que le DOJ ne dispose d'aucune preuve directe de son implication, de sa propre implication personnelle, il aurait deux témoins confirmant l'implication de Frédéric Pierucci. Son épouse, qu'il réussit à contacter par téléphone, lui annonce que son arrestation a déjà fait l'objet d'entrefilets dans la presse, mais sans que cela ne prenne de l'ampleur. Elle lui apprend, ayant fait ses propres recherches, que le FCPA permet aux Américains d'arrêter n'importe qui, n'importe où dans le monde, dès lors qu'il est soupçonné de corruption et qu'il a le moindre lien avec les USA. Paiement en dollars, usage de moyens et matériel américains, cotation New York Stock Exchange. C'est déjà arrivé à Total, à Alcatel ou à Technip. Lorsqu'arrive la seconde audience pour statuer sur sa libération conditionnelle, Frédéric Pierucci prend un coup supplémentaire au moral. Novick fait tout pour qu'il soit maintenu en prison, arguant que, comme il risque la prison à vie, eu égard aux charges qui pèsent contre lui, la justice américaine n'a aucune garantie qu'il ne quittera pas le territoire américain pour se réfugier en France. En somme, il veut lui faire payer la fourberie d'Alstom qui dure depuis plus de 3 ans. La juge, qui n'a pas confiance en Alstom, rejoint l'analyse du procureur et, avant de se prononcer définitivement, souhaite que Frédéric Pierucci trouve un citoyen américain en mesure de mettre sa propre maison en caution pour garantir sa demande de mise en liberté. Parallèlement, Frédéric Pierucci apprend que Kate Carr est bienvenue à Washington, 24 heures après son arrestation, pour négocier au nom d'Alstom avec le DOJ. Pourquoi n'a-t-il pas été arrêté? Pourquoi n'a-t-il pas cherché à entrer en contact avec lui? Pour Alstom, Frédéric Pierucci n'existe plus. Retour à la case prison, pour quelques semaines de plus. Petit flashback. Au début de l'enquête, le DOJ a informé Alstom, l'a invité à coopérer, et a signé un Deferred Prosecution Agreement, DPA, accord différé de poursuite. Cet accord oblige l'entreprise à s'auto-incriminer, à s'engager à mettre en place un programme de contrôle interne de lutte contre la corruption et à accepter un contrôleur, une personne physique, qui rend compte au DOJ pendant 3 ans. Avant Alstom, Technip, qui a eu une amende de 338 millions de dollars en 2010, et Total, qui a eu une amende de 398 millions de dollars en 2013, ont accepté ce deal. Mais Kron a voulu berner les Américains en leur disant ce qu'ils voulaient entendre et en faisant exactement le contraire. Le DOJ a donc sorti l'artillerie lourde. Les Américains ont utilisé un informateur avec micro dissimulé qui enregistrait tous les échanges litigieux. Chez Alstom, c'est la panique. D'aucuns considèrent que Kron pourrait être lui-même inculpé. Juste après l'arrestation de Frédéric Pierucci, la direction juridique prévient par mail la cinquantaine de cadres qui étaient dans le collimateur du DOJ, les enjoignant de se rapprocher de Kate Carr avant de se rendre aux USA. Mais ce qui est surprenant, c'est que Frédéric Pierucci n'a jamais fait partie de cette liste. Alors pourquoi l'avoir arrêté lui? Son rôle dans la joint venture entre Alstom et Shanghai Electric, y est-il pour quelque chose? Stan Twardy et Liz Latif expliquent à Frédéric Pierucci que ses capacités à négocier avec le DOJ se sont grandement amenuisées avec son refus initial de coopérer, contrairement à ce qu'a fait David Rothschild lorsqu'il a été arrêté. Les avocats ne parlent que de négociations, de deals, de marchés, d'accords, à aucun moment de justice. Ils décrivent par ailleurs le décompte probablement opéré par le procureur pour les années de prison encourues par Frédéric Pierucci au regard du système judiciaire américain et des chefs d'accusation qui sont portés contre lui. 125 ans de détention. Mais que dit l'acte d'accusation? Il y a les mails et les conversations, bien sûr, mais aussi des témoignages. Celui de David Rothschild et surtout celui de Pirose Charafi. Petit flashback. En 2003, l'Indonésie reste l'un des pays les plus corrompus du globe, bien que le dictateur Suharto, soutenu par les USA, ait quitté le pouvoir en 1998. Poussé par la crise financière de 1997 et les manifestations qui s'en sont suivies. Sous son régime, Des contrats revenaient principalement aux entreprises américaines et japonaises, moyennant des commissions de 15 à 20% à des intermédiaires du cercle proche de la famille Suharto. Mais les vieilles habitudes perdurent. Malgré leur éviction du pouvoir, les pots-de-vin restent indispensables à l'obtention d'un marché public. Or, pour les chaudières, deux entreprises américaines dominaient sans partage, dont la filiale d'AB&B, récemment rachetée par Alstom. Le groupe français est donc bien placé pour remporter cet appel d'offres. En 2002, pour leur permettre de remporter ce contrat, David Rochy contacte Frédéric Pierucci pour lui demander de valider le recrutement d'un consultant, fils d'un député du Parlement indonésien, Emir Moïse, en charge de la commission de l'énergie. Le FCPA ne semble pas inquiéter ses nouveaux collègues américains. À juste titre, car cette loi est fort peu appliquée aux USA. Pour autant, Frédéric Pierucci ne valide pas la démarche. Il comprendra plus tard que cette décision a bloqué le versement de pots-de-vin au profit de personnes importantes et influentes. Peu de temps après, un autre consultant, Piros Sharafi, lobbyiste expérimenté, lui est proposé par David Rothschild qui lui précise qu'avec lui, l'usage des rétrocommissions n'est pas nécessaire. Quelques mois plus tard, ce consultant se présente à Paris au siège d'Alstom, accompagné du député Emir Moïse. Il est présenté à Lawrence Hoskins, directeur du réseau commercial d'Alstom, et au responsable de la compliance, la conformité. Tous valident ses services et sa rémunération. 3% de la valeur du contrat de vente, ce qui est un tarif normal pour ce genre de prestation. Sarafi repart et se met au travail. Tout s'annonce bien, vu qu'Alstom propose la meilleure offre. Mais à l'été 2003, son concurrent direct, qui est américain, a soudoyé le comité en charge de l'évaluation des offres. Bilan: Alstom risque de perdre ce marché. La direction d'Alstom engage donc en urgence un nouvel intermédiaire, Azmin, qui a déjà travaillé pour eux, avec succès puisqu'Alstom emporte le marché en 2004. En ce qui concerne la rémunération d'Azmin, eh bien il aura 2% des 3% qui étaient prévus pour Sharafi, qui, ayant échoué, ne touchera plus que 1%. De fausses preuves de service ont été établies pour justifier le paiement de sa participation dans les négociations. En attendant, Frédéric Pierucci reste en prison, au milieu des pires criminels des USA. Il nouera des liens avec certains d'entre eux. Jackie, un ancien, figure de la French Connection. Alex, ancien de la BNP. Chris, qui, à 57 ans, a déjà passé 26 ans en prison. Lui, lui enjoint de ne jamais faire confiance aux avocats, qui ne travaillent que pour leurs pommes et n'hésiteront pas à tout balancer au procureur. Pour lui, avoir comme avocat un ancien attorney général est une erreur. Il est forcément lié au DOJ. Ses autres codétenus lui confirment que le DOJ ne le lâchera pas tant qu'il n'aura pas plaidé coupable. Un jour, une envoyée du consul de France qui lui rend visite à la prison lui fera comprendre par ailleurs qu'il ne sert à rien de demander à être transféré dans une prison française, car les Américains refuseront, nous considérant nous Français comme trop laxistes avec les affaires de corruption. Il y a pire. L'épouse de Frédéric Pierucci a bien compris qu'Alstom ne les aidera pas et qu'elle n'a plus le droit d'entrer en contact directement avec eux. D'ailleurs, Frédéric Pierucci a été sorti des bases de données d'Alstom. Son iPad n'est plus connecté au serveur de la boîte et son forfait téléphonique professionnel a été suspendu. Mais tant que Frédéric Pierucci ne plaidera pas coupable, Alstom continuera à payer son salaire. La sœur de Frédéric, spécialiste en droit, a trouvé, avec une simple recherche Google, l'acte d'accusation sur Internet, mis en ligne par le Department of Justice. Comme elle l'écrit à son frère, C'est pour nous Français simplement hallucinant que ces accusations soient portées à la connaissance du public alors que tu n'as même pas encore été jugé. Elle est outrée de voir qu'il a été incarcéré sans preuve. En Europe, en cas de corruption, c'est l'entreprise qui est visée, pas ses salariés. Il faut dire que la justice américaine n'a rien à voir avec ce que les séries télévisées nous servent au quotidien sur nos chaînes de TV françaises. En matière criminelle, 9 cas sur 10 ne font pas l'objet d'un jugement, car les mises en examen ne sont simplement pas en mesure de payer le coût prohibitif d'un cabinet d'avocats. Si en France, le juge d'instruction instruit des affaires à charge et à décharge, le procureur américain n'instruit qu'à charge, disposant de moyens d'investigation énormes et de fonds publics pléthoriques. Cela crée un déséquilibre ignoble, car l'inculpé doit tout mettre en œuvre pour prouver sa bonne foi, avec ses propres moyens limités. Par ailleurs, même si les procureurs américains ne peuvent poursuivre qu'après avoir obtenu l'accord d'un grand jury, 16 à 23 citoyens tirés au sort, ces derniers ne se sont opposés à des inculpations que dans 11 affaires sur 162 351 au regard des statistiques du ministère de la Justice américain en 2010. Enfin, si le mis en examen souhaite aller au procès, le juge dispose de moins de liberté dans son prononcé qu'en France à cause des peines planchers ou sentencing guidelines. Les procureurs américains disposent donc de tous les atouts pour contraindre les inculpés à plaider coupables, leur laissant tout loisir de réfléchir en les maintenant en détention provisoire aussi longtemps qu'ils le veulent. Afin de toujours gagner une affaire, ils proposent même des arrangements, invitant les inculpés à dénoncer leurs complices, même faute de preuves matérielles. In fine, le DOJ peut fièrement afficher que 98,5% des mises en examen sont reconnues coupables. Le système judiciaire américain est totalement perverti. Quant aux avocats américains, ils sont avant tout des négociateurs avant d'être des défenseurs. Stan Twardy et Liz Latif annoncent à Frédéric Pierucci que le DOJ est prêt à négocier son plaidé coupable contre l'abandon de certains chefs d'accusation. Ses avocats lui expliquent qu'en négociant bien, ils peuvent obtenir que ne soit retenue qu'une simple accusation de conspiration de corruption, soit 5 ans de prison maximum, comme pour David Rothschild. Si les procureurs ont des témoins qui dénoncent Frédéric Pierucci, l'analyse des 1,5 million de pièces, qui correspond à 11 CD de données, permettrait de prouver l'innocence de ce dernier. Mais le hic, c'est le temps que cela prendrait, 3 ans minimum, et le coût à supporter, plusieurs millions de dollars en frais. Et c'est là que Frédéric Pierucci comprend comment le piège se referme. Le DOJ veut remonter jusqu'à Cron et utilisera tous les moyens à sa disposition. D'autant qu'il vient d'inculper un ex-cadre d'Alstom, retraité et vivant aux États-Unis, Bill Pomponi. Twardy explique à Frédéric Pierucci que si Pomponi accepte de plaider coupable avant lui, il ne pourra plus négocier son propre plaider coupable à un si bas niveau. Mais l'effarement de Frédéric Pierucci sera à son comble lorsque Liz Latif lui décrira son cas dans le détail au regard de la grille des points, la fameuse sentencing guideline, et l'obligation qui s'imposera au juge quant à sa condamnation. Sa peine minimum, en cas de procès, sera de 15 ans et 8 mois, voire 17 ans et 7 mois en fonction des chefs d'accusation retenus. Frédéric Pierucci va donc choisir de plaider coupable. D'autant que Linda, une amie américaine, accepte de mettre sa maison en caution pour qu'il soit libéré. Mais avant l'audience, comme Alstom a choisi de coopérer en envoyant des tonnes de pièces complémentaires au DOJ, dont 3000 concernant Frédéric Pierucci, histoire de charger la mule pour éviter à d'autres cadres d'être poursuivis, le procureur propose à ce dernier d'étudier ses documents et de répondre à ses questions contre une recommandation au juge d'une peine de seulement 6 mois de prison. Rien ne dit que le juge suivra, mais il est rare qu'il ne suive pas les propositions du procureur. Mais à l'audience, le fait de dire la vérité sur Azmine va à l'encontre du scénario élaboré par le DOJ et basé uniquement sur les déclarations de Sharafi. Pour Azmine, les faits sont déjà prescrits, mais pas pour Sharafi. Le procureur ne va pas démolir son propre travail. Il faut biaiser, mais sans mentir. Douardi suggère donc à Frédéric Pierucci de plaider l'aveuglement volontaire, avoir fait l'autruche, avoir su, mais s'être voilé la face. Ce faisant, il lui fait apprendre un texte par cœur, avant de le lui faire réciter devant un DOJ ravi. Mais cela ne suffit pas. Kahn et Novick, les procureurs, en profitent pour questionner Frédéric Pierucci sur les autres projets d'Alstom, notamment les projets en Inde de Sipat et Bahr 1 en 2004-2005, pourtant perdus, faute de consensus au sein des équipes chargées de monter les projets. Bizarre, bizarre. D'ailleurs, après 2 mois de détention, alors que le 4e entretien se termine, les procureurs annoncent à Frédéric Pierucci qu'ils s'opposeront à sa demande de liberté sous caution, prévue à l'audience du lendemain, pour le maintenir au minimum 6 mois en prison et éviter tout contact avec Alstom. Frédéric Pierucci a compris que ce que, aux USA, le DOJ veut, Dieu le veut. Il abdique et préfère repousser sa demande de mise en liberté, faire 4 mois de détention de plus et espérer. Mais pourquoi un tel acharnement de la part des procureurs? C'est un mystère pour lui. Il y a forcément anguille sous roche. Son co-détenu, Jackie, ex de la French Connection, lui explique que pour coincer le procureur et le juge, il lui faut signer un « bidding plea », un plaidé coupable engageant, avec une peine fixée à l'avance. Personne ne peut revenir dessus, pas même le juge. Il ne faut jamais signer un open plea, où la peine n'est pas marquée, car le procureur garde les mains libres. Frédéric Pierucci ne sait pas quel type de plaidé coupable ses avocats ont négocié. Et contacté à ce sujet, ces derniers lui révèlent que le bidding plea n'a pas cours au Connecticut. Il s'agit donc bien d'un open plea. Mais Twardy veut le rassurer. Dans le Connecticut, personne ne revient sur la parole donnée. Si Novick a dit 6 mois, ce sera 6 mois. Le couteau dans les reins, Frédéric Pierucci va accepter le plaidé coupable imposé par le DOJ, avec ses conditions draconiennes. Ne jamais contredire publiquement sa reconnaissance de culpabilité. Renoncement au droit de faire appel de la sentence. Pas de mention de l'affaire de Tarahan dans son mémoire de défense. Par ailleurs, le document ne fait pas mention du calcul des points relatifs au guide des sentences. Bizarre. Mais normal dans le Connecticut, lui dira son avocat. Le 29 juillet 2013, après 3 mois de détention, l'audience pour signer le plaidé coupable se tient devant le juge. La décision quant à la sentence qui lui sera infligé et fixé au 25 octobre prochain. Et le lendemain, 30 juillet, le DOJ inculpe Lawrence Hoskins, le N-2 de Cron, en rendant public l'acte d'accusation pour accroître la pression sur Alstom. Car le but n'est pas d'arrêter Hoskins, puisque maintenant qu'il est prévenu, il se gardera bien de tomber dans les mains des Américains. Et après Hoskins, Cron lui-même? Toujours est-il que ce dernier doit trembler dans ses bras, voyant les coups du DOJ se rapprocher de lui. Mais que cela ne tienne, il fera rédiger et adresser un courrier de licenciement à Frédéric Pierucci, daté du 20 septembre, lui reprochant son absence au travail et l'atteinte à l'image d'Alstom générée par son plaidé coupable. Le vieil adage symbole du sine nobilitate, est usité par ce grand serviteur de l'État. Quand on veut se débarrasser de son chien, on déclare qu'il a la rage. Atteinte à l'image du groupe d'Alstom à travers le monde, agissement rigoureusement contraire aux politiques et valeurs du groupe. Risible et pitoyable. Quand on sait qu'Alstom est poursuivi depuis une dizaine d'années pour des faits de corruption au Mexique, au Brésil, en Inde, en Tunisie, Italie, Grande-Bretagne, Suisse, Pologne, Lituanie, Lettonie, Hongrie. Cron écrira même à l'épouse de Frédéric Pierucci qu'il est de sa responsabilité de protéger les intérêts d'Alstom, de ses actionnaires et de tous ses employés. Et que comme son époux a reconnu avoir violé les règles de procédure interne et les valeurs d'éthique d'Alstom, il ne peut rien pour lui. En fait, plutôt que de reconnaître sa culpabilité dans le double langage d'Alstom, Cron a choisi de sacrifier Frédéric Pierucci. Le licenciement sera rédigé en date du 16 novembre 2013 avec préavis se terminant le 30 juin 2014 pour cause réelle et sérieuse liée à son absence prolongée désorganisant l'entreprise. Lâché par sa société et pas plus aidé par l'État. Son épouse avait dû elle-même alerter le consulat de Boston au moment de son arrestation car le consulat de New York ne l'avait pas fait. Puis, ayant pris rendez-vous au Quai d'Orsay, les fonctionnaires se sont montrés très froids et distants, lui disant « Mais madame, nous ne voyons pas en quoi l'État français est concerné par ce dossier. » En visite aux USA en février 2014, François Hollande ne sollicitera jamais la clémence de Barack Obama pour Frédéric Pierucci. Il faut dire que les révélations d'Edward Snowden, 3 mois plus tôt, ont rafraîchi les relations entre nos deux pays. Petit flashback. Les fichiers présentés par Snowden montrent que les téléphones des Français sont espionnés par la NSA. Certains numéros étant ciblés, déclenchant un enregistrement systématique ou la récupération de SMS grâce à des mots-clés. Parmi les documents révélés par Snowden, il y a une note intitulée « France, développement économique » qui décrit l'espionnage de la NSA sur nos grandes entreprises, notamment celles des domaines stratégiques, gaz, pétrole, nucléaire, électricité. Tiens, cela correspond aux activités d'Alstom. Y aurait-il un lien de cause à effet entre les déboires de Frédéric Pierucci et l'espionnage américain? Toujours est-il que les USA ont développé une magnifique machine à gagner. L'outil de renseignement, c'est tout des concurrents des grandes majors américaines. L'outil juridique permet de les neutraliser pour remporter les marchés convoités, voire mieux, de les affaiblir pour les éliminer ou les racheter. En prison, Frédéric Pierucci aura le temps d'étudier le Foreign Corrupt Practices Act, FCPA. Cette loi a été promulguée en 1977, à la suite du scandale du Watergate. C'était le cambriolage du Parti démocrate. Du siège du Parti démocrate, qui conduira Nixon à la démission et qui révélera l'existence d'un grand système de financement occulte et de corruption d'agents publics à l'étranger impliquant plus de 400 grandes entreprises américaines. L'entreprise Lockheed, d'ailleurs, a pu vendre des avions de chasse F-104 au nez et à la barbe des Français et leur Mirage 5 aux Pays-Bas avec ce système. Le DOJ, au pénal, et la SEC, Security Exchange Commission, au civil, ont la charge de faire respecter cette loi, très contestée par les grandes entreprises américaines. Ces dernières arguent de leur impossibilité d'entrer en concurrence avec les majors étrangères, qui ne sont pas soumises aux mêmes règles de déontologie. C'est pas faux. La France, d'ailleurs, a légalisé la pratique du recours aux consultants ou aux intermédiaires en permettant à ses propres entreprises de défalquer de l'impôt sur les sociétés en les déclarant les pots de vin versés pour remporter des marchés à l'étranger. Ce faisant, les autorités américaines n'appliquent pas cette loi avec rigueur. En moyenne, une entreprise américaine sanctionnée par an de 1997 à 2001. C'est peu au regard des pratiques qui sont toujours en cours. Cette loi part pourtant d'un bon sentiment. Lutter contre le fléau de la corruption qui représenterait 3% des échanges commerciaux dans le monde selon une estimation de la Banque mondiale sur la période 2001-2002. Mais fort de leur connaissance en intelligence économique et de leur lobbying auprès des élus, les grands patrons américains font adopter, à partir de 1998, un amendement qui rend cette loi extraterritoriale pour l'imposer à ses concurrents étrangers lors des appels d'offres internationaux. Avec cet amendement, les USA peuvent poursuivre quiconque aura utilisé le dollar pour conclure un contrat ou utiliser un mail via une messagerie américaine. Ils transforment donc un handicap national en atout d'ingérence économique internationale. Ce que le DOJ et la SEC ne vont pas manquer d'exploiter dès le début des années 2000. D'autant que cette loi va être couplée au Patriot Act de 2003, qui a fait suite aux attentats du 11 septembre 2001, ce qui permet à la CIA, au FSB et à la NSA d'espionner sans limite les entreprises étrangères et leurs employés au motif louable de la lutte contre le terrorisme. Chose que le monde entier a découvert 10 ans après, en 2013, avec les révélations d'Edward Snowden, l'affaire Prism. Toujours est-il que face au lobbying intense des Américains, l'OCDE adoptera pour ses entreprises exportatrices une législation interne similaire pour la France dès mai 2000. Ses membres subissent alors l'ingérence des USA contre leurs entreprises sans pouvoir répliquer contre les entreprises américaines, faute d'avoir adopté des législations elles-mêmes aussi extraterritoriales. À côté de cela, la Russie, la Chine, l'Inde se sont bien gardées d'adopter ce type de législation. Les entreprises européennes sont donc coincées entre le marteau et l'enclume. Et la mise en application du FCPA, essentiellement à l'encontre des entreprises étrangères, va remplir les caisses de l'État américain, alors que, parallèlement, les géants américains du pétrole et de la défense n'ont jamais été inquiétés par le FCPA. Frédéric Pierucci se rend d'ailleurs compte que, lorsqu'une entreprise américaine est poursuivie par le DOJ dans le cadre du FCPA, c'est souvent dû à une intervention étrangère, les Américains récupérant les enquêtes en cours pour traiter leurs compatriotes à leur sauce. La lutte contre la corruption est une priorité américaine. Son droit lui permet de piéger les entreprises en provoquant l'infraction ou en recrutant des indicts au sein du personnel. Pourtant, entre la jurisprudence du FCPA et le cas Alstom, donc l'incarcération de Frédéric Pierucci, il existe plusieurs incohérences. Primo, le fait que malgré 1 an de coopération effective, aucun accord n'a été signé entre le DOJ et Alstom. Secondo, le fait qu'aucun autre cadre ou dirigeant d'Alstom n'a été poursuivi depuis l'inculpation d'Hoskins. Mais revenons à la demande de liberté conditionnelle de Frédéric Pierucci. Au bout de 6 mois, le DOJ va à nouveau refuser sa demande et lui imposer le report du jugement car Pomponi ne joue pas le jeu. Comme ce dernier est citoyen américain, il est inculpé mais reste en liberté. Et comme il n'a presque plus rien à négocier, qu'il est très âgé et qu'il risque 10 ans de prison minimum, il a tout intérêt à faire traîner la procédure, ce qui ne joue pas en faveur de Frédéric Pierucci. Car si Pomponi va au procès, le DOJ le mettra en situation de témoigner contre lui. Pierucci contre Pomponi. Mais il n'y a pas que cela, car Tardi lui-même ne comprend plus. Les procureurs ont dit vouloir garder son client 10 mois en prison, mais sans lui dire pourquoi. Frédéric Pierucci pressent à ce moment-là que leur combat contre Alstom est derrière tout cela. D'autant que le cas Alstom, en ce début 2014, vient d'être éclipsé par l'affaire BNP, poursuivi par les Américains pour avoir effectué des transactions en dollars avec l'Iran, Cuba, le Soudan et la Libye, qui sont sous embargo, et qui acceptera, la banque, de payer au Trésor américain l'amende historique de 8,9 milliards de dollars. Petit flashback à nouveau. Fin 2013, Alstom souffre en partie à cause du ralentissement de l'activité dans le monde, mais aussi à cause d'une baisse de 22% de son carnet de commandes et du loupé sur plusieurs appels d'offres. L'Eurostar échoit à Siemens, et les trains express régionaux d'Île-de-France tombent dans l'escarcelle du Canadien Bombardier. Le groupe vient d'annoncer 1 300 suppressions de postes. Même si la situation n'est pas aussi dramatique qu'en 2003, le besoin en trésorerie se fait sentir. Kron envisage alors de céder une partie de la branche transport aux Russes, mais ne dit rien sur le projet de joint venture lancé en 2011 avec la Chine. Ça, c'est bizarre. Le 24 avril 2014, la lumière jaillit et le puzzle s'assemble enfin dans l'esprit de Frédéric Pierucci. CNN vient d'annoncer le deal surprise entre Alstom et General Electric pour 13 milliards de dollars. Kron espère échapper au courroux du DOJ en bradant aux Américains ce qu'ils convoitent depuis de nombreuses années, c'est-à-dire les activités énergie et réseau du groupe français concurrent de General Electric dans ces domaines. Mais comment le gouvernement français peut-il valider que l'industriel vend une technologie, les turbines Arabelle des centrales nucléaires et les turbines de propulsion du porte-avions Charles de Gaulle, à l'étranger, quand bien même il s'agisse de l'allié américain? À Paris, Arnaud Montebourg, ministre en charge de l'économie et de l'industrie, qui vient d'apprendre la nouvelle via la presse, dit « Je n'y crois pas, c'est une connerie ». Petit flashback à nouveau. Début 2013, Montebourg s'intéresse à Alstom et en fait une priorité, car il sait que l'entreprise va au-devant de soucis financiers, d'autant que son actionnaire principal, Bouygues, souhaite recouvrer ses billes pour se concentrer sur son nouveau cœur de métier, les télécoms et la 4G. L'étude que Montebourg a commandée sur Alstom confirme que l'entreprise doit contracter des alliances pour survivre, notamment avec les partenaires espagnols ou polonais, ainsi qu'un rapprochement possible avec une grande entreprise française, Areva. Mais aucune proposition de vente, totale ou partielle, du groupe n'est suggérée dans ce rapport. La situation est préoccupante, mais pas catastrophique. Or, Kron et Montebourg, qui ne s'apprécient pas mutuellement, sont obligés de collaborer et se rencontrent 6 fois en cette année 2013 pour évoquer l'avenir d'Alstom. Car même s'il n'est plus actionnaire de ce grand groupe, l'État a sauvé Alstom de la banqueroute en 2003 et l'entreprise vit majoritairement de la commande publique française. Montebourg appelle le château et tombe sur Macron, qui dit tomber des nues. Pourtant, le secrétaire général de l'Élysée avait lui aussi commandé discrètement un rapport sur Alstom au cabinet américain A.T. Kearney dès son arrivée au palais en 2012. Comme Kron est injoignable, et pour cause, il est dans l'avion entre Chicago et Paris, c'est Clara Guémard, la directrice générale France de General Electric, qui confirmera que des discussions entre General Electric et Alstom sont bien en cours. En fait, Kron vend un grand groupe français aux Américains sans avertir son propre gouvernement, ni son conseil d'administration, ni son conseil exécutif. Deux personnes seulement savent, Kate Carr, le directeur juridique, et Grégoire Pou-Guillaume, responsable des réseaux de transmission. C'est ce dernier qui a pris attache avec General Electric en toute discrétion dès août 2013, soit juste après le plaidé coupable de Frédéric Pierucci et l'inculpation de Laurence Hoskins. Kron sent qu'il sera le prochain, il veut sauver sa tête. D'ailleurs, le 9 février 2014, à l'hôtel Bristol de Paris, s'est tenu un rendez-vous d'affaires en petit comité. Kron, Pou-Guillaume, Geoffrey Immelt, le PDG de General Electric, accompagné de son responsable fusion-acquisition et de son directeur branche énergie. Une chose est remarquable après coup, la concordance parfaite entre le calendrier des négociations de vente entre Alstom et General Electric et le calendrier judiciaire des attaques du DOJ contre Alstom et Frédéric Pierucci. Ce dernier, qui avait été arrêté la veille du voyage de Kate Carr aux USA pour rencontrer le DOJ, afin de mettre la pression sur les dirigeants d'Alstom, se rend compte que les procureurs ont prolongé sa détention tant que les négociations entre General Electric et le groupe français n'étaient pas abouties. ce qui n'empêchera pas Cron de toujours nier, avec un aplomb remarquable, n'avoir pas été influencé par l'épée de Damoclès qui pesait sur lui pour fait de corruption. Ce que Cron ignore, ou fait mine d'ignorer, c'est qu'Alstom est la cinquième société tombant dans l'escarcelle de General Electric après avoir été mise en cause par le DOJ pour fait de corruption. Y a-t-il collusion entre le DOJ et General Electric? Ou est-ce simplement une opportunité de General Electric? Va pour la première option, la collusion. Après avoir étudié à fond la jurisprudence du FCPA, Frédéric Pierucci n'hésite pas à mettre en cause devant ses avocats l'indépendance de la justice américaine très pro-anglo-saxon. Et il cite des exemples. La société d'armement britannique BAE, qui, après intervention de Tony Blair, n'a vu aucun de ses cadres inquiétés et n'a écopé que d'une petite amende de 400 millions de dollars. L'affaire Shot Show, dont la procédure qui visait 22 dirigeants de sociétés d'armement américaines, a été annulée miraculeusement. L'affaire Exxon, qui n'a pas été condamnée après des faits avérés de corruption envers la famille du président Nazarbayev pour obtenir des concessions de champs d'hydrocarbures au Kazakhstan. GE, General Electric, était impliqué dans cette affaire, ainsi que d'autres faits similaires en Irak et au Brésil. Mais General Electric n'a jamais été poursuivi par le DOJ, malgré les nombreux lanceurs d'alerte qui ont dénoncé ses procédés au cours de toutes ces années. Là, ses avocats le savent et lui demandent s'il préfère faire 10 ans de prison ou sortir libre bientôt. Il faut dire que General Electric est un symbole de l'Amérique. Il est présent partout. Électricité, hydrocarbures, aviation, matériel médical, électroménager, transport. Jeffrey Immelt, le PDG de General Electric depuis septembre 2001, a dit un jour « Faire des affaires, c'est aussi faire la guerre. » Après avoir écopé d'une amende pour détournement d'argent en marge d'un contrat en 1990, General Electric s'est converti en chevalier blanc, nouant des liens étroits avec le DOJ, lui permettant de jouer les intermédiaires entre les procureurs et les entreprises tombant dans leurs griffes, pour pouvoir mettre plus facilement la main dessus, si ça c'est pas de l'intelligence économique et stratégique. Dans la production d'électricité, Frédéric Pierucci remarque d'ailleurs que presque tous les concurrents étrangers de General Electric ont été poursuivis et contraints à payer de grosses amendes. Siemens, ABB, Hitachi, Alstom, mais aucune entreprise américaine. Et la capacité diplomatique de l'oncle Sam n'explique pas tout. Lorsque Immelt arrive en France pour finaliser le deal, Montebourg refuse de le recevoir et lui écrit que les projets d'acquisition dans le secteur de l'énergie, et surtout celui du nucléaire, sont soumis à l'accord des autorités. En fait, le ministre gagne du temps pour contrer cette vente impensable. Ses équipes chercheront même à entrer en contact avec Frédéric Pierucci, qui ne répondra pas pour ne pas compliquer ses chances de sortir de prison. Montebourg se tourne alors vers Siemens, qui répond favorablement à l'appel du pied du ministre, dans ce rapprochement franco-allemand, retardant un peu plus la décision de vendre à General Electric de la part du conseil d'administration d'Alstom. Cron n'a donc plus les coups des franges pour brader l'entreprise, du moins en apparence, car l'Élysée ne joue pas le jeu de Montebourg et nomme un négociateur, David Azéma, qui dépendra certes du ministre de l'économie, mais aussi du secrétaire général de l'Élysée. Quoi qu'il en soit, le 15 mai 2014, Montebourg fait adopter un décret taillé sur mesure pour contrecarrer les projets de General Electric, qui doit désormais obtenir l'aval de l'État. Mais si les interventions du ministre de l'Économie plaisent aux Français, la presse, dans son ensemble, ignore les dessous de l'affaire General Electric-Alstom, malgré Mediapart, Le Carnet enchaîné et Le Point. Une chape de plomb muselle tout risque de débordement médiatique pouvant contrecarrer les plans de General Electric. Eh oui, Immelt s'est entouré des conseils d'Havas et Cron de ceux de Publicis. Ces boîtes bloquant toute communication défavorable au deal et présentant aux Français, à coups de chiffres biaisés, des contre-vérités, de sémantiques de caljoleuses et de promesses d'emploi, Ce rapprochement comme une véritable chance et une grande opportunité. Conclusion. Début juin, Hollande tranche en faveur de l'entreprise américaine, en voyant balader la proposition Siemens-Mitsubishi, pourtant plus prometteuse, et confirmant la toute-puissance des milieux d'affaires américains sur le sol français. Petit flashback. Le soft power américain, l'influence par la diplomatie douce, précède magistralement le hard power, la contrainte par la guerre ou la politique de la canonnière. Chaque année, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, des énarques et de jeunes politiciens français, identifiés par l'ambassade des USA à Paris comme prometteurs, sont invités à Washington pendant plusieurs semaines dans le cadre du programme Young Leaders. In fine, la classe politique française est principalement atlantiste avant d'être germanophile. Par ailleurs, la majorité des grands cabinets d'avocats, des grands cabinets d'audit et des banques d'affaires implantées à Paris sont made in USA. Et ils n'hésitent pas à offrir un job à tous les membres de nos cabinets ministériels. Ainsi, David Azéma, négociateur nommé par l'Élysée, se verra offrir dès la conclusion de l'accord un poste dans une grande banque d'affaires de l'oncle Sam avant de s'installer chez Merrill Lynch à Londres, filiale de Bank of America. Il dira dans une interview au journal Le Monde « Pourquoi je quitte l'État ? Pour gagner de l'argent. » De même, l'ancien patron de l'agence de participation de l'État, impliqué dans le dossier, ira directement pointer chez Bank of America. Une fois l'accord General Electric Alstom signé, le DOJ fait savoir à Frédéric Pierucci qu'il peut déposer sa demande de libération après 14 mois de détention. Le 11 juin 2014, il est libre, pour une première période de 2 mois, mais contraint de rester aux États-Unis. Mi-juillet, son épouse et ses enfants le rejoignent pour 3 semaines de vacances. Après leur départ, Frédéric Pierucci poursuit son combat judiciaire pour pouvoir rentrer en France. Pomponi a enfin accepté de plaider coupable, le 18 juillet. Mais le DOJ, c'est bizarre, s'oppose toujours au retour en France de Frédéric Pierucci, tant que Hoskins ne cède pas. Cela se négocie, une fois de plus, en dollars. Le DOJ accepte le retour en France contre 200 000 dollars de caution supplémentaire et l'obligation, une fois à Paris, pour Frédéric Pierucci de pointer chaque semaine au consulat américain. Le 17 septembre 2014, Frédéric Pierucci atterrit à Paris. À 46 ans, il doit retrouver du travail, mais eu égard à cet incident de parcours, il ne retrouvera pas de poste similaire et un même niveau salaire. Alors, Frédéric Pierucci va tirer parti de sa mésaventure et de sa connaissance du FCPA et du manichéisme américain pour monter sa propre société de conseil aux entreprises, avec deux contraintes qu'il s'impose, pas d'intervention publique ni d'intervention médiatisée, pas plus que de publicité autour de ses nouvelles activités, car il ne faut pas alerter le DOJ. Ce faisant, il rencontrera de nombreuses personnes, experts du renseignement, analystes économiques, qui avaient déjà compris à 90% ce qui se tramait derrière l'affaire générale Alstom, General Electric Alstom. Seuls les politiques ont laissé faire. Le 5 novembre 2014, Macron remplace Montebourg à Bercy. Il renonce à exercer le droit de veto de l'État et valide la vente d'Alstom à General Electric. Le 19 décembre 2014, l'Assemblée générale des actionnaires d'Alstom doit à son tour valider le deal. Ce jour-là, avant la tenue de cette grande assemblée, France Inter diffuse son enquête sur les dessous de la vente d'Alstom, en prime time, reprenant les propos de Daniel Fasquelle, député UMP, vice-président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, qui dit « On a trompé les Français ». Frédéric Pierucci s'est inscrit au tout dernier moment à cette Assemblée générale. La veille, son avocat américain lui adresse un mail pour le mettre en garde contre toute déclaration publique qu'il pourrait faire, ses propos pouvant être utilisés contre lui par le DOJ. Il est abasourdi. Les Américains savent tout de nos moindres faits et gestes. Ce mail, au lieu de le dissuader, l'encourage à assister à ce grand raout, dernier acte de l'alali d'une grande entreprise française. Et l'Assemblée générale commence à peine, que Frédéric Pierucci, assis volontairement au second rang, reçoit un simple SMS de ses avocats américains, pour mémoire il est 4h32 du matin à New York, « Ne faites rien qui puisse vous mettre en danger ». Entre ce qui avait été présenté à l'opinion française et ce qui est présenté aux actionnaires, il y a un gouffre. Il ne s'agit plus d'un partenariat 50-50, mais d'une mainmise totale des Américains sur l'entreprise française, accompagnée d'une perte de 1,4 milliard d'euros et d'un bonus exceptionnel de 4 millions d'euros offert à Cron pour ce magnifique deal. Personne ne réagit, en dehors des petits actionnaires minoritaires, mais c'est peine perdue. Le deal est validé. 72 heures après, le DOJ tient une conférence de presse internationale à Washington. Il annonce qu'Alstom a reconnu avoir usé de corruption pour emporter des marchés à l'international de 2000 à 2011 en violation du FCPA. La société française accepte de payer une amende de 772 millions de dollars, constituant la plus grosse amende jamais infligée pour la corruption. Il envoie un message fort aux entreprises étrangères qui pratiqueraient la corruption sur le marché mondial. Fini de jouer, l'Amérique veille au grain. Pourtant, Cron n'a jamais été poursuivi lui-même par le DOJ, bien que ce dernier ait toutes les preuves de l'implication du PDG dans l'organisation de la corruption. Ce qui tendrait à prouver que le but était moins de punir la faute personnelle des dirigeants d'Alstom que de permettre à General Electric de mettre la main sur son concurrent français. Plus surprenant encore, bien qu'il ait signé un plaidé coupable relatant des faits de corruption avérés, Cron n'a jamais été poursuivi par les autorités judiciaires de son pays. En France, l'affaire ne mobilise pas l'establishment. Pourtant, la pilule ne passe pas auprès d'une quarantaine de députés qui exigent la création d'une commission d'enquête sur la vente d'Alstom. Mais le gouvernement ne veut pas. Les socialistes ne bougent pas et l'UMP reste en retrait. Seule la commission des affaires économiques accepte d'engager quelques auditions sur cette affaire. Dommage, car devant une commission d'enquête, les personnes interrogées doivent prêter serment. De fait, Cron va pouvoir fanfaronner sans être nullement inquiété, criant même au complot pour justifier de sa bonne foi. Macron, pour sa part, accusera Cron de trahison, tout en justifiant le choix qu'il a fait de vendre aux Américains, faute de temps, pour parer le piège qui s'était refermé. Comment les dirigeants de la cinquième puissance mondiale peuvent-ils être à ce point muselés? Montebourg lâchera plus tard, parce qu'ils ont la frousse des Américains, parce qu'ils les croient trop puissants. Le 8 septembre 2015, le dernier obstacle à la vente, l'accord de Bruxelles, sera levé grâce à l'intervention de Macron. Cron a sauvé sa tête et sacrifié les salariés d'Alstom. En 2018, General Electric n'aura pas réussi à tenir sa promesse de créer 1000 emplois. Pire, toutes les fonctions support, informatique, comptabilité, paye, ont dégraissé. Pour Frédéric Pierucci, rien n'est fini. Le DOJ retarde sans cesse la date de son jugement, repoussée à l'automne 2017, soit après la campagne électorale présidentielle en France. Pourquoi? Serait-ce pour le museler alors que Emmanuel Macron doit affronter Marine Le Pen au deuxième tour? Et que, lors du traditionnel débat d'entre-deux-tours, cette dernière tentera d'attaquer le futur président sur le dossier Alstom, en ne maîtrisant pas du tout son sujet car elle était très mal préparée? Quoi qu'il en soit, Macron est élu en mai 2017 et les députés La République En Marche majoritairement en juin 2017. Alors, en juillet 2017, Frédéric Pierucci reçoit enfin sa convocation pour septembre de la même année. Mais comme il est le seul coupable en lice, le DOJ veut faire de lui le bouc émissaire de la corruption menée par Alstom depuis toutes ces années. Frédéric Pierucci va écoper de 30 mois de prison, jugement sévère, qui se veut exemplaire de la part de la juge Arterton, qui n'a jamais eu à juger d'affaires liées au FCPA dans le Connecticut. Elle incarne à elle seule toute l'hypocrisie de la justice américaine qui n'a de justice que le nom. Le but de Frédéric Pierucci est maintenant d'obtenir qu'il fasse son temps d'incarcération en France. Le DOJ ne l'acceptera qu'en septembre 2018. Le 21 septembre, il atterrit à Paris. Le juge d'application des peines le place en liberté conditionnelle. Nous sommes le 25 septembre 2018 et Frédéric Pierucci est de nouveau libre.